L'Afrique en marche, une émission présentée par Spoutnik Afrique.
Chers auditeurs de Radio Maliba FM à Bamako, mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Kamal Louadj, je suis journaliste correspondant à Radio Spoutnik Afrique et animateur de l'émission L'Afrique en marche. Dans cette nouvelle édition spéciale de L'Afrique en marche, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Dimitri Borisevitch Kouvaline, chef de laboratoire, directeur adjoint à l'Institut de prévision économique de l'Académie des sciences russes de Moscou. Avec lui, nous allons analyser la situation de l'économie russe, notamment l'industrie et le rôle des entreprises. Dans le même temps, nous lui demanderons les horizons de la coopération scientifique, technologique et industrielle entre la Russie et l'Afrique à l'approche du deuxième sommet Russie-Afrique les 27 et 28 juillet à Saint-Pétersbourg. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. Le porte-parole du président russe Dmitri Peskov a déclaré ce 17 juillet que l'accord céréalier a de facto pris fin. Depuis juillet 2022, l'initiative dite de la mer Noire permettait les exportations de céréales ukrainiennes et était censée faciliter le transport des produits agricoles et des engrais russes. Cependant, le volet de l'accord qui concerne la Russie n'a pas été mis en œuvre jusqu'à présent. En outre, en dépit de sa mission visant à limiter la crise alimentaire, c'est notamment l'Occident qui emporte l'écrasante majorité de ses produits au détriment des pays pauvres, dont ceux d'Afrique. Selon M. Peskov, dès que les promesses concernant l'exportation des produits russes seront tenues, la Russie relancera l'accord immédiatement. Mais le problème n'est pas seulement le non-respect de l'accord par l'Occident. Le président de la Douma d'État, la chambre basse du Parlement russe, Vyacheslav Volodine, a admis que les corridors céréaliers mis en place dans le cadre de l'initiative de la mer Noire auraient servi à dissimuler des attaques terroristes menées par le régime de Kiev. L'une d'elles a été l'attaque du pont reliant la péninsule de Crimée à la Russie continentale qui a eu lieu dans la nuit du 16 au 17 juillet. Des drones ukrainiens ont tué un couple marié grièvement blessé, leur fille adolescente. Selon M. Volodine, il n'est pas exclu que cet attentat terroriste ait également été perpétré sous le couvert du corridor de sécurité céréalier. Yamba Ntimba, économiste camerounais, estime qu'il ne fallait pas s'attendre à autre chose de la part de l'Occident.
Je pense que les Occidentaux n'ont aucune envie de respecter les conditions posées par la Russie. N'oubliez pas qu'on a en face de nous des gens qui pensent qu'ils ont tous les droits et aucun devoir envers les autres. Ils ont tous les droits sur les autres, aucun devoir envers eux. Et donc, clairement, ils n'ont aucune envie de satisfaire aucune condition posée par la Russie parce que toute leur démarche envers la Russie depuis les années 90, c'est de l'humilier, c'est de la dépecer, c'est d'en faire une république bananière comme ils en ont fait en Afrique et en Amérique du Sud. Or, le problème avec la Russie, c'est que c'est une puissance nucléaire, c'est une puissance industrielle, c'est une puissance scientifique et technologique, et c'est un peuple fier qui, heureusement, a gagné la plus grande guerre mondiale, la deuxième, et qui ne comprend pas que des gens qui dépendent d'elle, du fait de cette victoire-là, veulent aujourd'hui lui faire preuve d'ingratitude. Et je crois que la Russie ne devrait pas du tout renouveler cet accord, mais pourrait, pour soutenir, aider un certain nombre de pays comme la Somalie, comme le Kenya, comme l'Éthiopie, comme beaucoup d'autres, le Centrafrique, pourrait, au cas par cas, dans ses propres stocks, auprès de la fédération de ses agriculteurs, conduire une démarche commerciale dans ce sens-là qui permettra de répondre à la demande de ces pays-là.
C'était Yamba Ntimba, économiste camerounais. La Russie est en effet en mesure d'aider les pays africains à assurer leur sécurité alimentaire sans l'accord sur les céréales. Elle a toutes les possibilités de le faire car les sanctions, malgré les attentes de l'Occident, n'ont pas réussi à détruire l'économie russe. Comment a-t-elle résisté aux sanctions? Quelles sont les perspectives de sa croissance? Les entreprises russes seront-elles intéressées par un déploiement en Afrique, un continent très convoité et très prometteur? Pour parler de ces questions fondamentales, de leur enjeu et impact, j'ai le plaisir de recevoir dans nos studios à Moscou Dmitri Borisevitch Kouvaline, chef de laboratoire, directeur adjoint de l'Institut de révision économique de l'Académie des sciences russes à Moscou. Dmitri Borisevitch, bonjour. Et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
Bonjour.
Alors, la croissance de l'industrie et en général de l'économie russe s'est accélérée au mois de mai pour atteindre les 8,7% en glissement annuel du PIB dans sa partie production et 5,4% au sens général. Alors, le commerce de détail a augmenté. Son chiffre d'affaires de 9,2%, le chômage est tombé à 3,2% de la population active et le salaire réel aurait quant à lui augmenté de 10%. La production agricole a augmenté aussi de 2,9% et la construction de 13,5%. Alors, Dmitri Borisevitch, comment peut-on expliquer de tels résultats, mais aussi la très bonne résilience de l'économie russe face aux sanctions sans précédent et en période de paix?
L'économie russe, en général, a toujours fait preuve de ses capacités intenses pendant les crises qui sont survenues au cours des 10 ou 15 dernières années. Mais auparavant, cette capacité active a été montrée par la population russe et par les entreprises russes et par les régions. Pour ce qui est de la politique économique fédérale, alors on avait beaucoup de griefs à faire. Et pendant les deux dernières crises qui étaient liées avec la crise de COVID-19 et celle qui était liée avec les sanctions contre la Russie, les autorités fédérales ont fait preuve de un très bon comportement. Il faut dire que la politique financière et économique était très bonne pendant ces périodes. Et cette politique a permis aux entreprises et à la population de s'adapter aux crises d'une façon beaucoup plus rapide qu'auparavant. Et cette adaptation et cette capacité d'adaptation très haute de la population et des entreprises ont été renforcées par une politique très bonne macroéconomique.
Alors, peut-on dire que les États-Unis et les pays de l'Union européenne, ce qu'on appelle l'Occident, l'Occident collectif, ont à la fois sous-estimé les capacités de résistance de l'économie et des entreprises russes, de leur capacité de transformation, mais aussi des capacités de réaction du gouvernement russe. Ont-ils perdu complètement l'expertise sur la Russie?
Je dois dire que les pays occidentaux ont toujours mal connu l'économie russe et dans la majorité des cas se sont trompés en pronostiquant tel ou tel développement de l'économie russe. Et en la matière, on peut même dire qu'ils ont perdu la bonne idée de la Russie parce qu'ils n'ont jamais eu la bonne idée. Et le Fonds monétaire international a recommandé plus d'une fois à la Russie de mener une politique quelconque. Pendant les années 90, les autorités russes ont cru le FMI et les résultats ont été catastrophiques. Quand vers la fin des années 90, 90, la politique économique a été déterminée par le gouvernement de Primakov et après par Poutine. Le Fonds monétaire international et les conseils du FMI, etc., on a commencé à les ignorer, tout simplement. Je ne dois pas dire que tous les conseils ont été ignorés. Non, mais certains d'entre eux. Et les autorités, les pouvoirs publics ont commencé à s'orienter, s'en tenir à leur propre idée de la situation, et ça a donné des résultats meilleurs. C'est pourquoi cette politique économique souveraine, comme on le dit maintenant, a donné de meilleurs résultats. Et vous parlez de l'adaptabilité de l'économie russe, le confirme bien que cette approche des pouvoirs publics est bien plus pertinente que les conseils des organisations internationales.
D'accord. Alors, globalement, les investissements consentis par les entreprises industrielles proviennent à 55% des fonds propres des entreprises, à 10% du système bancaire et à 20% des fonds publics et à 15% d'un mélange entre l'émission de titres et de prêts consentis par d'autres entreprises dans le cadre de relations avec les sous-traitants. Est-ce que l'industrie et les entreprises russes ont complètement, peut-on dire qu'elles ont complètement surmonté le choc des sanctions ?
Je diviserai cette question en deux parties. À court terme, sans aucun doute, l'économie russe, en gros, a surmonté le choc primaire. Il n'y a pas eu d'écroulement, d'effondrement, au moment où on a bloqué toutes les voies pour l'exportation, la Russie a trouver d'autres voies dans la direction sud, etc. Quand on a interdit l'importation venant de l'Occident, ceci a été remplacé par l'importation venant de l'Orient et du Sud. C'est pourquoi on peut dire que, à court terme, l'économie russe a très bien réagi à ces risques-là. Mais, quand même, les problèmes à long terme et les risques et menaces à long terme n'ont pas disparu. Ils étaient liés avec un retard technologique et avec la nécessité de remplacer les hautes technologies qui existaient en Russie, et dont la Russie a bénéficié pendant une vingtaine, trentaine d'années. Et on mettra beaucoup plus de temps pour résoudre ces problèmes-là. Et personne ne peut garantir que ces problèmes seront résolus avec succès comme à court terme. Mais le gouvernement russe y travaille beaucoup. Les affaires russes y contribuent. On tâche de développer la science russe. On tâche de développer le secteur de haute technologie russe. Et actuellement, vous voyez l'opération spéciale militaire, on voit que les armes de haute technologie russe font preuve de bons résultats et de réussite. Et nous devons atteindre les mêmes résultats dans les secteurs non militaires. Mais il faudra y travailler beaucoup, y compris travailler dans la coopération avec les États et pays amis venant d'Asie et d'autres.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples des secteurs de l'industrie, des exemples de ces, des entreprises qui ont vraiment surmonté le... Comme par exemple, je crois, comme j'ai vu un peu dans l'électronique, dans les industries très sensibles, les entreprises russes ont fait vraiment de belles choses et elles ont réalisé des chiffres très importants.
En premier lieu, je dois mentionner l'industrie de défense. Cette industrie, autrefois, a beaucoup collaboré avec les pays occidentaux, alors qu'il y a quelques années, cette collaboration s'est arrêtée. Mais la qualité, la hausse de la qualité du produit militaire russe s'est même améliorée de plusieurs fois. Et d'après les données statistiques, de 10 à 20 ou à 30%, c'est la production des ordinateurs, des appareils de toutes sortes d'optique, des produits de câbles, etc. Et la fabrication de tout cela a été réussi justement là où la Russie a pu trouver les fournisseurs, a pu trouver les technologies, et c'était grâce à l'importation parallèle que la Russie a fait ceci. Et en Russie, on s'est souvenu tout à coup que les hautes technologies sont fabriquées non seulement à l'Occident et aux États-Unis, mais dans des pays tels que Vietnam, Inde, Chine, Malaisie, Iran et dans d'autres pays qui étaient considérés comme le tiers-monde. Mais alors que maintenant, ces pays-là se sont déplacés pour être qualifiés de deuxième pays de deuxième monde, etc. Et je dirais maintenant que l'équipement textile qui est considéré comme équipement le plus complexe en Inde, on le fabrique au même niveau qu'en Allemagne, alors que cela coûte beaucoup moins cher en Inde. Et on s'est trompé d'avoir négligé les pays asiatiques. Et maintenant, on a compris qu'il faut développer davantage une telle coopération qui permet d'éviter et de surmonter les sanctions occidentales et on pourra procéder au développement des technologies d'autre part.
Alors, une question un petit peu directe. Est-ce que, in fine, finalement, ces sanctions ont rendu service à la Russie? Parce que les entreprises, qu'elles soient de petite ou moyenne taille ou grande taille, des entreprises de moyenne technologie ou de très haute technologie, actuellement, elles se tournent vers l'Est, la Chine, l'Inde, c'est-à-dire les pays exactement où il y a le plus haut taux de brevets d'invention, le plus haut taux de nouvelles technologies. Donc finalement, l'Occident, il a rendu service à l'économie russe. Bien que, bien sûr, dans les prochaines années, hein, on ira les remercier, peut-être qu'en faisant un peu de tourisme là-bas.
Sans aucun doute. Le fait que la Russie s'est tournée vers le sud et l'est, vers les pays que vous avez énumérés, et aussi vers ceux d'Afrique et d'Amérique latine, cette tendance est pour longtemps, pour ne pas dire que pour toujours. Parce que d'après ce qu'on voit, l'expérience de coopération avec l'Occident s'est trouvée plutôt négative pour la Russie. Les risques et menaces qui ont surgi suite à une telle coopération se sont avérés beaucoup trop trop important et une simple idée que si vous voulez coopérer normalement, si vous voulez qu'on ne vous trompe pas, or l'Occident a trompé la Russie plus d'une fois, vous devez chercher d'autres partenaires. Il est temps de se souvenir des traditions soviétiques où l'URSS avait coopéré d'une façon fructueuse avec les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine tout à fait directement, et c'était une coopération multilatérale. Cela concernait la production de matières premières, cela concernait la création des productions communes. Il y a eu une coopération de transport technologique, etc. Mais malheureusement, après le démantèlement de l'Union soviétique, tout cela s'est effondré et il faut rétablir ceci. Comme les 30 années l'ont bien montré, l'orientation de la Russie vers l'Occident ne s'est pas avérée très, très bonne. Et je pense que la coopération entre différentes entreprises, régions, sociétés, cette coopération avec le Sud et l'Est paraît être, avoir plus de perspectives.
Bien. Alors, Dmitri Borisevitch, vous êtes un grand spécialiste du secteur des entreprises russes. Et j'aimerais vous poser une question par rapport au sondage que vous faites donc périodiquement et qui me semble très importante. Et alors, j'ai vu l'un de vos sondages, les entreprises russes sont de plus en plus optimistes pour leur croissance en 2023 et en 2024. Donc, depuis le début de 2023, les profits du secteur non pétrolier, et non gazier, ont augmenté plus vite que les profits du secteur des hydrocarbures. C'est très important, et c'est-à-dire que les entreprises voient vraiment qu'ils ont, une visibilité sur l'avenir de leur business. Alors, et la production industrielle a donc retrouvé son niveau le plus haut de décembre 2021, au moins de mai 2023, bien sûr en glissement annuel, et la production manufacturière pour les premiers mois de l'année est en hausse de 4,8% par rapport au résultat de 2022. Alors, pouvez-vous nous en dire un peu plus à partir des sondages que vous effectuez auprès des entreprises russes sur cet aspect-là d'optimisme pour le futur, et comment ces entreprises ont-elles réussi à surmonter les difficultés et à s'adapter activement à la nouvelle situation marquée par les sanctions. Donc, je parle dans la façon d'insuffler une dynamique de travail malgré que le climat, malgré que le contexte est hostile.
Premièrement, je dois répondre, je dois signaler que vous avez tout à fait raison de dire que les secteurs non matières premières croissent beaucoup plus rapidement que les secteurs concernant les matières premières. Pour la Russie, c'est très important. Nous devons quitter l'aiguille de pétrole, comme on le dit.
Et passer vers le pétrole doit aider à sortir du pétrole.
Vous avez tout à fait raison. Nous devons utiliser les produits reçus grâce au pétrole et le gaz pour développer les autres secteurs de l'économie. Vous avez tout à fait raison de signaler un haut niveau d'optimisme des entreprises russes par rapport à leur avenir et leur disponibilité d'investir et de moderniser beaucoup de choses. Je voudrais signaler deux facteurs clés de cet optimisme. Premièrement, la Russie est contente que la crise a été surmontée rapidement. Il s'est trouvé que la chose la plus mauvaise n'a pas eu lieu. La récession a été assez courte et tous ont commencé à penser à l'avenir rapidement. Pour l'économie, cette question psychologique est très importante. Le deuxième facteur, c'est la politique macroéconomique assez réussie du gouvernement russe. Le business russe a vu qu'au cours des trois dernières années, le gouvernement s'est tourné vers les entreprises, enfin. Et il y a eu beaucoup de mesures de soutien des PME et de grandes entreprises et pour les grands secteurs et pour différentes régions et pour différents groupes de la population. Tous ces facteurs ont fonctionné ensemble et cela a donné des résultats. Les soutiens se sont manifestés dans les impôts, dans les marchés publics, dans les subventions accordées aux entreprises et aux familles, par exemple, familles nombreuses, retraités. Les subsides ont été accordés aux régions. Il y a eu un programme de financement qui a été accordé à différentes entreprises de l'industrie de transport, de construction navale, d'aéronautique et d'autres branches socialement importantes. Il est sûr que ceci a contribué à l'optimisme des entreprises. Ils ont compris que l'État est devenu un véritable partenaire et pas un sujet qui veut collecter les impôts. Et je pense que cela a augmenté l'optimisme des entreprises russes.
Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité Dimitri Kouvaline pour la seconde partie de notre émission après une courte pause musicale. À tout de suite. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Dimitri Borisevitch Kouvaline, chef de laboratoire et directeur adjoint à l'Institut de prévision économique de l'Académie des sciences russes à Moscou. Dimitri Borisevitch, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Alors, la fréquence des rapports sur les actions des entreprises de recherche de fournisseurs alternatifs en Russie et à l'étranger, de lancement de processus de modernisation de la production et de recherche de nouveaux marchés de vente sont restées élevées. Et la vitesse à laquelle les entreprises s'adaptent aux sanctions dépend largement du soutien des autorités. Et vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, le point de vue des entreprises russes sur le type de mesures de soutien que les autorités devraient mettre en œuvre d'ici la fin du printemps 2023 n'a pas beaucoup changé par rapport aux réponses de 2022 selon les sondages que vous avez effectués. Alors, pouvez-vous expliquer à nos auditeurs, en particulier les chefs d'entreprise africains, comment, toute mesure gardée, bien sûr, la Russie a réussi cette prouesse dans une symbiose publique-privée. Comment l'État a réussi à intervenir sans seulement déverser de l'argent comme ça, mais vraiment à apporter des solutions qui ont redynamisé l'économie et les entreprises. Et quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette politique c'est-à-dire et de travail ensemble en symbiose entre public et privé en vue d'aider à l'industrialisation de l'Afrique.
À mon avis, la situation russe est en effet permet de tirer des leçons pour la Russie elle-même que pour les autres. L'économie russe a bien compris que les mécanismes de marché ne résolvent pas toujours les problèmes. Les mécanismes de marché sont bons, ils doivent jouer le rôle dans les processus économiques, mais comme on le sait, le marché est une cause des échecs dans les domaines écologiques et autres. Le marché, il est avare et il ne veut pas toujours soutenir les salariés et d'autres couches de population. Il ne veut pas résoudre les problèmes des régions, les problèmes écologiques. Il préfère faire des économies des moyens qui sont destinés pour l'écologie. Et c'est à l'État que revient le rôle clé dans la solution de ces problèmes. Et beaucoup de problèmes naissent pendant la crise. Et là, c'est l'État qui doit devenir partenaire de la population et des entreprises. Partenaire, d'ailleurs, beaucoup plus important que pendant les périodes normales. Parce que il arrive des cas où les ménages ou les entreprises n'arrivent pas à venir à bout des problèmes qui tombent ou qui apparaissent du coup. Et c'est là où l'État doit diminuer la charge fiscale. C'est là où l'État doit acheter les produits des entreprises russes. Et je dis bien des entreprises russes. Et il y a des cas où il faut aider les ménages, surtout les ménages pauvres. Et parmi contribuer au secteur prioritaire. Par exemple, si vous voulez développer les secteurs de haute technologie, ils doivent être prioritaires pour l'État, même si les bénéfices ne viennent pas tout de suite, le rendement ne vient pas tout de suite. Il faut attendre que ces entreprises marchent bien et qu'elles arrivent à faire leurs produits. Nous savons que les pays qui ne sont pas amis existent non seulement pour la Russie, mais pour d'autres pays tels que la Chine, l'Iran, qui ont fait face à des sanctions d'envergure qui avaient un caractère politique. Et on entend parler dans les pays occidentaux que c'est la loi qui doit prendre le dessus surtout, que les relations doivent être libres, relations de marché. Et on comprend que souvent ce ne sont que des paroles ronflantes et on ne voit pas pratiquement le marché libre, vous risquez de voir confisquer vos actifs, par exemple dans les banques étrangères occidentales. Je le qualifierais de gel de ces fonds. L'Iran y a fait face, la Russie y fait face maintenant. Et si un pays ou quelqu'un ne vous aime pas beaucoup, alors on peut faire n'importe quoi avec vous. Je voudrais vous rappeler une plaisanterie. Il faut gagner les choses d'après les règles, mais parfois on gagne sans respecter les règles. Et les pays d'Amérique latine et d'autres continents peuvent bien confirmer ce dicton. Et à cet égard, n'importe quel pays court un tel danger. S'il arrive à faire quelque chose que les États-Unis n'approuvent pas ou que l'Union européenne n'aime pas, où on dirait qu'il y a des relations de marché libre, alors chez eux, la loi disparaît tout à coup.
C'est un peu comme le Far West dans le 18e et le 19e siècle. Bien. Alors, la majorité des entreprises russes se prononcent en faveur de la poursuite d'une politique économique étatique de l'État plus active. Au printemps 2023, 44,4% des sociétés étaient favorables au renforcement de l'intervention de l'État dans l'économie par des méthodes indirectes et 11,3% étaient favorables au renforcement de l'intervention directe. Alors, dans le même temps, environ un tiers des entreprises étaient favorables à une certaine réduction du rôle de l'État dans l'économie. Alors, y a-t-il une augmentation progressive de la confiance des entreprises russes dans leur propre capacité à se développer? Donc, à partir de ces chiffres-là, de ces statistiques, de travail en symbiose avec l'État, est-ce qu'ils sont optimistes? Et je veux dire, ici, à l'intérieur, aussi bien à l'intérieur, ici en Russie, qu'à l'extérieur. Alors que actuellement se développe l'idée, notamment dans les pays d'Asie ou l'Amérique latine, mais surtout en Afrique, que les États veulent commercer entre eux dans les monnaies locales, dans les monnaies nationales, et pour court-circuiter le dollar ou court-circuiter l'euro pour qu'il ne passe pas par des intermédiaires parasites qui n'ont ni produit ni rien du tout, juste parce qu'ils contrôlent la monnaie, ils prennent leur commission. Alors, cette situation, est-ce que les crypto-monnaies, le commerce dans les monnaies nationales, est-ce que ce n'est pas une chance aussi pour les entreprises russes pour aller conquérir d'autres marchés, notamment en Afrique?
Je suis d'accord avec vous. Quand une entreprise veut que le rôle de l'État diminue, alors il s'agit du marché intérieur. Quand les entreprises veulent l'aide de l'État, alors ça se passe à travers les relations de l'économie extérieure. Vous avez raison de dire que quand dollars et euros sont devenus toxiques, non seulement pour la Russie, l'Iran et même pour la Chine. Quand vous comprenez que ce que vous avez cumulé en dollars ou en euros peut disparaître seulement parce que un homme à l'Occident l'a bien décidé, alors il faut qu'il y ait une alternative. Et là, on a besoin de l'assistance de l'État. Pourquoi? Parce que la monnaie, c'est le monopole de l'État dans n'importe quel pays, et les bonnes gens doivent attendre la décision étatique.
Sinon, ce n'est pas une monnaie. Ce n'est pas sous le contrôle de l'État.
C'est pourquoi les variantes que vous proposez ont un sens. Il faut toutes ces mesures-là, il faut les essayer et développer. Et là-dessus, ça peut être le commerce bilatéral en monnaie nationale. Il est vrai que là, il y a un problème, que s'il y a un déficit commercial, comment y procéder? On a besoin de chambres de clearing ou d'une troisième monnaie où il faut procéder à la vente au troc. crypto-monnaie, c'est aussi une mesure de travail qu'il faut étudier. Il y a, il est vrai, une grande volatilité de la crypto-monnaie. Il faut lutter contre cela. Mais c'est, à mon avis, c'est aussi le niveau de l'État.
Moi, je parle des crypto-monnaies sous contrôle des États, hein, pas celles avec lesquelles on joue dans les marchés financiers.
Actuellement, on a commencé à parler, d'ailleurs, dans le cadre de l'organisation BRICS et dans le cadre de l'organisation de coopération de Shanghai, qu'il faut développer une monnaie nouvelle internationale pour les comptes internationaux qui soit analogue à l'écu en Union européenne et qui avait existé avant l'apparition de l'euro. Une telle monnaie pour les pays de BRICS pourrait être une bonne alternative pour un commerce qui ne soit pas sous le contrôle de l'État.
Je vous demande votre avis sur ça, parce qu'il y a quand même une méconnaissance. Les Africains, par exemple, ne connaissent pas bien ce qui se passe dans l'économie russe, et les entreprises russes ne connaissent pas ce qui se passe dans le continent africain. Je crois que même dans d'autres pays, comme l'Iran, comme d'autres pays. En Afrique, par exemple, les gens ont l'idée que c'est l'économie de l'Union soviétique. Pas de technologie, par exemple, pas ceci, pas cela. Et les Russes, ils croient que ce sont des régions qui sont sous domination, par exemple, des Occidentaux, donc du dollar et de l'euro, ou du franc CFA, qui est adossé à l'euro. Donc, est-ce que, justement, le fait de faire exploser l'Occident nous a donné une chance de faire exploser cette bulle et de casser ce mur de vapeur et de dire aux entreprises russes qu'il y a un marché potentiel énorme en Afrique et de dire aux Africains aussi qu'ils peuvent travailler dans tous les domaines avec les entreprises russes, mais il faut quand même court-circuiter ces monnaies de domination, qui sont le dollar, l'euro ou le franc CFA, et travailler avec des monnaies nationales.
Comme on dit en Russie, vous avez raison pour 146%. En effet, un des problèmes d'une coopération insuffisante entre les sociétés russes et les sociétés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine est qu'ils se connaissent très peu. Les uns les autres. Et c'est un paradoxe. Partout où il y a l'Internet, partout où il y a beaucoup d'informations, mais on pense qu'il faut chercher.
On pense que les clichés ont leur rôle, ils jouent un très grand rôle dans le conditionnement des esprits des gens, à tel point qu'ils n'ont même pas la curiosité d'aller chercher.
Et on a besoin de contacts, non seulement à travers l'Internet, mais des contacts directs. On doit visiter les uns les autres pour connaître, prendre connaissance des possibilités, opportunités de coopération. Le deuxième point, en effet, la coopération directe entre les entreprises, entre les régions, sans intermédiaire, c'est l'utilisation de la monnaie nationale de chacune des parties. Vous cherchez le produit dans un autre pays qui vous intéresse et le représentant de cet autre pays cherche chez vous le produit qui l'intéresse. Et quand on trouve ceci, alors les comptes, les calculs en monnaie nationale deviennent très logiques. Mais je dis bien, le moment clé, le point clé, c'est la nécessité d'élargir du coup les contacts directs, les visites, les uns chez les autres. pour contacter dans différentes questions.
Peut-on dire que toute l'idéologie néolibérale basée sur un retrait total de l'État est complètement erronée ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Néanmoins, que faire aussi pour ne pas retomber dans les mêmes travers de l'économie étatisée et administrée, qui a aussi montré ses limites ? Et à votre avis, l'État n'est-il pas in fine, et ne doit-il pas in fine être le garant du bien commun et de l'intérêt général ?
Certainement, ce n'est pas une question très simple. Moi aussi, je pense que la voie la meilleure pour n'importe quel pays, c'est la combinaison des mécanismes de marché avec les mécanismes de participation étatique. Et pendant différentes périodes, la part du marché et de l'État
peut
changer.
Parce que je vous pose cette question parce que la Russie, elle a le privilège d'avoir vécu les deux systèmes. Elle a connu l'économie étatisée et administrée. Et après, dans les années 90, même jusqu'aux années 2000, elle a connu l'économie ultra-libérale, entre guillemets, libre, et ainsi de suite. Donc, les économistes russes ont une vision beaucoup plus pragmatique sur les deux choses à la fois. C'est ça le sens de ma question.
Oui, vous avez tout à fait raison. Nous avons vu les deux extrémités de la politique économique. Le rôle exagéré de l'État et le rôle exagéré du marché. Mais je dois dire que l'idéologie du marché libre contient actuellement beaucoup d'hypocrisie. Parce que, en réalité, il ne s'agit pas tellement de la liberté des peuples et des pays, mais plutôt de la liberté du sommet et de ceux qui sont au sommet et de s'accaparer de tout ce que l'économie donne. C'est-à-dire le sens économique du système actuel néolibéral consiste en ceci que les revenus, les produits doivent aller vers le milliard d'or. Et toutes les paroles portant sur le fait que c'est la liberté des peuples et des pays, ça, tout ça, ce n'est pas vrai. Dès que vous essayez de garder une partie de cette rente dans les pays qui la produisent, tout de suite, il y a des difficultés politiques et même militaires qui apparaissent. Des difficultés auxquelles font face des pays aussi forts que la Russie et la Chine. Il n'y a rien à dire alors en ce qui concerne les pays d'Amérique latine qui n'ont pas de possibilités militaires. C'est pourquoi les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine doivent utiliser l'expérience russe et chinoise pour chercher des versions d'économie mixte où le rôle clé appartiendra au mécanisme de marché, mais ces mécanismes doivent fonctionner dans les limites que la société leur imposera. De toute façon, de grandes ressources doivent être affectées à la population, à la solution aux problèmes écologiques et même malheureusement, à la confrontation par rapport aux pays qui ne veulent pas que les pays émergents, qu'on appelle en français, se développent rapidement.
Здесь, конечно,
là,
политическая самостоятельность.
C'est l'autonomie politique qui est nécessaire à chacun des pays africains.
Souveraineté politique et économique.
Souveraineté politique. La lutte pour sa souveraineté est très importante dans le monde actuel. Pour que vous-même décidiez où sera affectée les ressources que vous allez gagner, pas un tiers quelconque qui est on ne sait où.
Bien. Alors, une dernière question, Dmitri Borisevitch. C'est aussi une petite question philosophique, mais je pense qu'elle est très, très importante pour tous ceux qui voudraient se trouver une place ou un chemin pour se développer dans le monde actuel. Moi, je pense que l'opération spéciale militaire russe en Ukraine a démystifié et complètement fait éclater le voile de poussière qui ne permettait pas de voir le système néolibéral dans sa réalité. Parce que quand on regarde d'un point de vue de l'argent, de la comptabilité de l'argent, l'Occident, on peut dire qu'il est riche à des dimensions astronomiques. Mais sur le plan réel, il n'a même pas le blé ou le riz pour manger. C'est-à-dire que l'argent, il y a beaucoup, mais quand c'est des pays qui ne produisent rien, on se demande à quoi sert l'argent. On se demande à quoi sert cette économie ultra-financiarisée. Est-ce que c'est vraiment une économie? On parle, on va faire les énergies vertes, par exemple, les éoliennes, le solaire, ainsi de suite. Mais une fois que le Nord Stream 1 et 2 ont été cassés, on s'est rendu compte qu'en fait, l'éolien et le solaire, c'était le gaz russe, à 70% du fonctionnement de ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont bouleversées. Bouleversé. Alors, une question qui me semble très, très importante. L'économie néolibérale globalisée et ultra-financiarisée a détruit la production agricole et industrielle et a mis fin au sens philosophique et moral profond du mot du travail humain. Elle a complètement dévalorisé le travail humain parce qu'on peut devenir riche juste en montrant ses seins, par exemple, sur TikTok ou en jouant en bourse. Et c'est tout. Les gens sont complètement déconnectés de la réalité. Donc, basé sur une culture, donc ils ont le travail humain basé sur une culture de création et de la vie et au service de l'humain et de la nature. Bien. Alors, ma question. Qu'est-ce que le travail humain, dans le fond? Comment se transforme-t-il en production industrielle et agricole pour l'équipement de l'homme et de la nature avec le sens hautement moral de bien accueillir et servir les générations futures?
Je voudrais revenir vers le sens de l'économie néolibérale actuelle. Ceux qui touchent de plus grands profits ont intérêt à ce qu'il n'y ait pas de résistance, aucune. Mais si des groupes de population commencent à résister ou des pays entiers commencent à résister, ou les couches de population, y compris la jeunesse, alors ils toucheront moins d'argent et leur tâche sera de, par rapport aux groupes de population, d'atomiser les groupes de population pour que la résistance ne soit pas trop grande, l'opposition ne soit pas trop grande. Et à cet égard, les technologies de réseau, d'Internet, la libéralisation absolue de la vie y aident beaucoup. Les gens cessent de se sentir membres de communautés familiales, religieuses, nationales, de jeunesse. Et alors, il sera plus facile de surmonter cette résistance. Pour ce qui est de grosses entreprises, là, il se forme des collectivités de travail qui sont aidées par les syndicats, qui peuvent résister aussi. Il y a des oligarques financiers qui peuvent dire qu'ils ont leurs propres intérêts. Vous avez raison de dire qu'une agriculture importante, industrie importante, industrie nationale importante dans n'importe quel pays, c'est toujours une menace pour l'oligarchie financière. Et le développement de l'industrie nationale qui peut exister sans fourniture venant des États-Unis, par exemple. C'est aussi une menace. Donc, ils vont mener une politique souveraine, ils vont faire des bénéfices et disposer de ces bénéfices à leur gré, ce qui ne correspond pas aux intérêts des gros financiers. À cet égard, la souveraineté économique est importante pour n'importe quel pays. Et la France, qui est alliée des États-Unis, a dit « Nous avons besoin d'une souveraineté économique plus grande. Nous ne voulons pas dépendre des fournitures venant d'autres pays. » Même un pays tel que la France ressent cette influence du sommet financier. On commence à influencer les intérêts économiques, intérêts nationaux. Mais ils masquent cette activité parce que eux, ils ont toujours leur masse média, même professeurs titulaires des universités qui vont prouver que cette politique est tout à fait juste et judicieuse. Et à cet égard, les États d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, il ne leur reste plus rien que d'y réfléchir beaucoup et de prendre conscience de leurs propres intérêts. Et la théorie du monde multipolaire est tout à fait logique. Quand la décision n'est pas prise dans un pays ou deux, mais dans tous les pays ensemble, et c'est là où il y a la véritable liberté des peuples et liberté des pays. La prise de décision dans le cadre d'une économie globale où les échanges en marchandises et finances deviennent justes et équitables, où la rente dégagée par les pays les plus développés diminue et les pertes que les pays moins développés doivent diminuer aussi. L'économie globale est répartie d'une façon plus équitable, où la valeur du travail humain augmente, où l'apport en travail devient plus important. C'est là où le pays devient plus riche. Quand on paye les matières premières des pays africains, non à vil prix, mais à un prix normal, le pays devient souverain et il commence à résoudre ses propres problèmes et n'a pas besoin des décisions des pays tels que les États-Unis.
Развитые страны Европы не очень заинтересованы в этой перестройке. И страны третьего мира должны сами решать этот вопрос.
Merci Dmitri Borisevich Kovalin pour cet entretien. passionnant et riche en informations. C'est la première fois que je reçois un spécialiste des entreprises, c'est-à-dire de la dynamique réelle économique. Merci pour toutes les précisions. J'espère que nous avons réussi à poser cette problématique du développement dans le réel, par la création de la richesse, par la production agricole et industrielle, scientifique et technologique, et montrer que c'est ça, la richesse d'un pays, et non pas cumuler des montagnes d'argent auxquelles il n'y a pas d'équivalent dans la réalité. Bien, j'espère vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était Dmitri Borisevitch Kouvaline, chef de laboratoire et directeur adjoint de l'Institut de prévision économique de l'Académie des sciences russes de Moscou. Ainsi s'achève cette édition de notre émission L'Afrique en marche, proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes. Chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien.
L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.